Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
En arrivant à la bassine, c'est là où on voit que tout explose. Que ça pète déjà avant qu'on arrive. On est un des derniers cortèges à arriver, et là je vois un mec qui a le visage ensanglanté, je vois que ça court de partout. Et j'avoue, moi j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. C'est la première fois en manifestation que je ne sais pas quoi faire. J'ai des potes qui prennent du blé et qui viennent tasser les lacrymos. Ils ont déjà des prises d'initiative que je n'ai pas. Donc j'ai marché un peu autour, mais un peu loin, et tout en me disant, mais en fait, à tout moment, je me prends quelque chose.
Sainte-Soline, 25 mars 2023.
3200 gendarmes et policiers, 9 hélicoptères, 4 véhicules blindés, 4 canons à eau, 4 pelotons héliportables, un peloton de 40 gendarmes montés sur 20 quads, un positionnement infranchissable de camions de gendarmerie et de barbelés autour de la méga bassine, transformée en forteresse, l'utilisation de plus de 5000 grenades, dont des centaines explosives et mutilantes, contre les manifestantes et manifestants en moins de 2 heures. 5000 grenades en 2 heures, il y a clairement des moyens militaires. Avec un coût exorbitant pour l'État, pour les contribuables. C'est pas la guerre, mais ça commence à y ressembler, en fait, sur certains aspects.
Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. On va aujourd'hui encore revenir sur la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Cette manifestation contre les méga-bassines et leur monde mortifère, on en reparle avec les sociologues Hélène Stevens et Gwendal Roblin, du collectif du Loriot, deux des autrices de ce bouquin intitulé « Avoir 20 ans à Sainte-Soline », publié aux éditions La Dispute. La rencontre qui suit date de juin 2024, avant le village de l'eau organisé en juillet par Bassine Non-Merci et les Soulèvements de la Terre. Un événement extraordinaire, j'oserais même dire historique, sur lequel on va bientôt passer plusieurs émissions pour vous raconter ce qui s'y est passé. Mais en préambule, et aux origines de cette série à venir sur le village de l'eau, il semblait intéressant de revenir sur les traumatismes de Sainte-Soline, car au lieu de décapiter le soulèvement en réprimant à Sainte-Soline, le pouvoir a bien au contraire renforcé la cohésion du mouvement, comme on le verra au village de l'eau. Mais pour l'heure donc, ouverture de la rencontre avec nos sociologues, avec Nicolas, de la librairie Les Temps Sauvages, à Tours.
Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux d'accueillir ce soir deux membres du collectif du Loriot, Gwendal Roblin et Hélène Stevens, qui ont donc participé à l'écriture du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » publié aux éditions La Dispute, un livre qui revient sur la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines, une mobilisation qui avait été appelée par notamment les Soulèvements de la Terre, mais aussi le collectif Bassine Non-Merci. Je commence juste par signaler que les éditions La Dispute ont lancé une cagnotte parce qu'elles traversent des difficultés financières importantes. Vous pouvez acheter leurs livres pour les soutenir, vous pouvez leur envoyer plein d'amour. C'est une maison d'édition avec laquelle on a beaucoup collaboré ces deux dernières années pour l'organisation de rencontres, qui fait un travail très utile pour la diffusion de sciences sociales engagées.
C'est vraiment chouette d'être là, merci. Pour rappeler un petit peu la jeunesse du livre, la jeunesse, c'est d'abord reparler du contexte. On est en mars 2023, le contexte en France, souvenez-vous, c'est marqué par les mobilisations contre la réforme des retraites. Et nous, à l'université, on est mobilisés contre cette réforme. Donc on est dans des sociabilités militantes, des échanges assez nouveaux parce qu'on sortait de 2 ans de confinement, souvenez-vous aussi. C'était reparti depuis le 22, mais globalement, il n'y avait pas eu depuis cette période-là, il n'y avait pas eu de mobilisation sociale très forte, et particulièrement l'université. Si je raconte tout ça, c'est qu'en fait, c'est un peu le point de départ du livre. Ça a été un déclencheur, c'est-à-dire qu'en fait, on a à ce moment-là eu beaucoup d'échanges assez nourris avec un certain nombre d'étudiants qui étaient engagés dans cette mobilisation. Et puis est arrivé ce week-end du 25-26 mars, qui à Poitiers et dans la région Poitou-Charentes venait après une succession de mobilisations contre les méga-bassines, une mobilisation qui montait en puissance et qui en plus dans ce contexte de mobilisation sociale contre la réforme des retraites promettait d'être particulièrement nourrie en termes de participation. Voilà, Gwendal et l'ensemble des membres du collectif Loriot, on était dans ces mobilisations sociales, écologistes, et on était donc à Sainte-Soline. On a été à Sainte-Soline le samedi 25 mars, ou la veille pour certains. Dès le soir même, on avait non seulement des messages de nos proches, de nos amis, pour savoir si on allait bien, mais on avait aussi sur nos boucles militantes un certain nombre d'étudiants, d'étudiantes qui demandaient si tout le monde allait bien, essayer de se rassurer, de prendre des nouvelles. Dès le lendemain, on a fait la proposition en fait, de se retrouver à l'université pour parler de ce qu'on avait vécu à Sainte-Soline. Donc ça a commencé comme ça, c'est-à-dire une première rencontre avec une vingtaine d'étudiants, quelques collègues, qui étaient à Sainte-Soline et qui avaient vraiment besoin d'exprimer ce qui s'était passé. Essentiellement la répression policière, confrontation à la violence, la confrontation aux blessés. Puis il y avait, dans tous les témoignages, on a fait un long tour de table, ça a duré 3 heures, 4 heures. Aussi, il y a eu le sentiment qu'il y avait un deuxième niveau de violence qui avait été vécu collectivement, qui était en fait le moment où, quand on rentre chez soi, que ce soit dans la voiture ou que ce soit quand on arrive chez soi, d'allumer la radio, la télé, de regarder le traitement médiatique de ce qui avait été vécu dans la journée. Là où il y a eu une sorte de violence symbolique qui a été ressentie, c'était de se dire on n'a pas vécu ça, on n'a pas vécu la même chose, on a vécu ça, mais c'est complètement caricaturé. On n'est pas ce que disent les journalistes de nous. On n'est pas allé à Sainte-Soline avec l'intention de tuer des policiers, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des ultra-gauchistes, ou voilà, ou en tout cas, il y avait cette révolte, en fait, d'être si caricaturé, et aussi que Sainte-Soline soit réduit, en fait, à ce moment de violence. Donc, assez rapidement, au cours de ce débriefing, a émergé l'idée qu'il fallait qu'on se réapproprie le récit qui avait été fait de cette journée, et qu'on fasse, voilà, notre propre récit, ce qu'on a appelé ensuite un contre-récit, de ce traitement médiatique dominant, avant que d'autres médias alternatifs ou prennent aussi le relais pour essayer de rétablir la vérité. C'est parti de là, de ces étudiants et de nous qui voulions raconter Sainte-Soline autrement que ce que ça avait raconté. Et puis, fin mars, début avril, les étudiants commencent aussi à reprendre un peu, à essayer de récupérer les cours qu'ils ont ratés, à essayer de préparer leurs examens. Donc de moins en moins, les étudiants sont là des moments où on s'était donné rendez-vous. Et on se dit, c'est un peu bête, c'est dommage qu'on ne saisisse pas cette occasion quand même pour documenter, pour faire ce contre-récit. Parce que dans les luttes, souvent, voilà, on est tout militant, militante qu'on est, on essaie d'avancer et on prend peu le temps de s'arrêter, d'essayer de raconter ce qu'on a vécu. On avait tous le sentiment quand même d'avoir vécu un événement assez fort. Donc on s'est dit, pourquoi pas un livre ? Étienne et moi, on fait partie des éditions La Dispute. Donc on a proposé un projet de livre avec cette idée d'un collectif de chercheurs. Voilà, on s'est retrouvés en fait à 6 enseignants-chercheurs, 5 sociologues, puis une collègue géographe sociale de l'Université de Poitiers à construire ce livre, à penser ce livre. Donc nous, ce qu'on avait envie de c'était dans ce récit, c'était de rendre visible tout ce qui avait été rendu invisible par le traitement médiatique, de donner à voir la diversité des personnes qui étaient présentes, et pas uniquement cette espèce de caricature d'un militant violent qui serait venu en découdre avec les forces de l'ordre, et tout casser au passage. On avait envie donc de montrer cette diversité donc, qui avait été niée, on avait envie aussi de rappeler quand même les causes, les raisons pour lesquelles des dizaines de milliers de personnes se retrouvent dans la boue, sous la pluie, à camper dans un endroit sans doute où ils ne seraient jamais allés sinon. Et puis on avait aussi envie de rendre visible tout ce qui s'était passé en dehors de ces 2 heures de violence, c'est-à-dire aussi de rendre compte de ces grands cortèges en pleine campagne, des cortèges très joyeux, très colorés, de rendre compte des débats avant, de tout aussi le travail militant en amont qui avait été fait pour préparer ces journées-là, de parler aussi de tout ce qui s'est passé dans ce qui est appelé la base arrière, donc de rendre visible en fait tout ce qui est invisibilisé par le traitement médiatique, mais aussi peut-être plus largement parfois par un regard ordinaire. Et on avait ce sentiment d'urgence en fait, de dire il faut vite qu'on fasse quelque chose vite, parce que sinon en fait tout le monde va partir dans ses activités et on va peut-être perdre quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. Il fallait donc trouver un angle, parce qu'on ne pouvait pas être exhaustif et tout restituer. On a souhaité particulièrement s'intéresser à la jeune génération qui était présente à Sainte-Soline, d'où avoir 20 ans à Sainte-Soline, parce que d'abord, comme beaucoup de gens, on est attristés, atterrés de cette rengaine permanente sur les jeunes. Chaque génération a eu son lot de « les jeunes sont pas assez » ou « sont trop ». Donc là, on ne sait pas, ils sont trop dépressifs ou ils sont trop radicaux, mais enfin, ils sont jamais comme il faut. Donc on avait un petit peu envie, d'une part, de casser ces stéréotypes. Le point de départ, c'était les étudiants, notre rapport avec eux. Donc on était en contact avec cette jeunesse, donc on avait aussi envie, justement, de leur rendre aussi cet hommage. Et puis, en sociologue aussi, on avait quand même quelques hypothèses. On n'était pas uniquement dans un contre-récit. On se disait, mais voilà, de quelle manière Sainte-Soline, ça peut être pensé comme un événement socialisateur, ou en tout cas un événement biographique qui va marquer une trajectoire, qui va faire peut-être qu'on va bifurquer, ou on va changer notre rapport au monde, ou on va... Et on se disait que voilà, cet âge, qu'on appelle parfois l'âge des possibles, même si en tant que sociologue, on sait à quel point on est aussi marqué par nos déterminismes, mais cet âge des possibles, où les bifurcations sont peut-être plus possibles que quand on a 30, 40 ans, un emprunt, des enfants, ou je ne sais quoi. En tout cas, de quelle manière Sainte-Soline a pu être un événement où on a appris, on a été en contact avec d'autres, on a observé un certain nombre de choses, expérimenté un certain nombre de choses, éprouvé. Voilà, de quelle manière ça peut aussi conduire à des bifurcations, ou en tout cas des réflexions sur son avenir.
En fait, c'est un ouvrage qui est très riche, puisqu'il y a en fait une trentaine de contributions. Il y a ce qui est le cœur de l'ouvrage, qui consiste en des portraits de manifestants à Sainte-Soline de 17 à 29 ans. Ce cœur d'ouvrage, en fait, il était vraiment pensé pour laisser la parole littéralement à cette population dont on parle souvent, en fait qu'on écoute rarement et à qui on tend rarement un micro. Donc, une introduction où on fixe un peu les propriétés sociales de la personne, sa trajectoire, des éléments de parcours. Après, c'est des verbatim en fait. On pose une question et vous avez de façon assez brute les réponses. On a essayé de laisser un matériel assez brut aussi qui rend bien compte en fait. Il n'y a pas tant d'analyse que ça. Déjà parce qu'en fait, il y avait un enjeu de le publier en un an. Voilà, on sait que la sociologie, on n'est pas très bon pour faire des choses dans le feu de l'actualité. C'est à la fois un parti pris et rendre compte dans l'urgence de ce qui s'est passé, mais aussi laisser des traces brutes qui pourront resservir, en fait, qui documentent aussi les luttes. Ce qu'on a essayé de faire, c'est donc pas une exhaustivité, mais plutôt de balayer une diversité de profils, de personnes, de milieux sociaux. Par exemple, Anaëlle, qui est une ancienne maraîchère du département. On a Laura, qui est sous deux intérimaires. Elliot, qui est sans compagnon, mais qui est sans papier. Mathis, qui est lycéen. Et Yaël, qui est artiste, ou encore Simon, qui lui exerce comme assistant d'éducation. S'en tenir juste à ces portraits, c'était sans doute pas suffisant pour saisir un peu la question à la fois des méga-bassines, il y a des enjeux assez techniques mais, et politiques qui recouvrent ça, et puis on n'avait pas réussi à saisir non plus les enjeux de transmission, quoi, entre les différentes générations militantes. Et donc on a fait appel à différents textes d'intervention de personnes qui ont à voir de près ou de loin avec Sainte-Soline, et donc qui servent en fait à croiser ces portraits. Et donc on a des textes à la fois de chercheurs, bien sûr, donc des chercheurs en sciences sociales, mais aussi des chercheurs en sciences naturelles, comme Anne Morwen Passier, qui est chercheuse en sciences de la Terre, voilà, qui est aussi assez active dans le mouvement, qui nous a fait un texte très très intéressant. Voilà, on a aussi un texte de Françoise Vergès, qui est militante décoloniale, voilà, une chercheuse qui dialogue en fait avec ces questions-là de transmission, d'enjeux de réappropriation. Florence Yadaden et Françoise Vergès font beaucoup le lien avec la colonisation, l'appropriation des ressources, en fait. Et on a aussi croisé ça avec des textes d'artistes, comme un très beau texte de Corinne Morel-Darleux, qui est une écrivaine, Christian Paché, qui est un auteur, compositeur de Baltrade. On a aussi cherché à donner la parole aux organisateurs. Il y a des textes des représentants de la Confédération Paysanne, des membres de Bassines Non Merci, ou des Soulèvements de la Terre, qui aussi racontent ce qu'ils ont ressorti de cette expérience, et puis qu'est-ce qui se passe après, quoi. Parce que c'est aussi une question qu'on a demandé à ces jeunes qu'on a interrogés, c'est comment vous êtes venus à Sainte-Soline? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a changé? On a fait les entretiens entre, je sais pas, 2-3 mois et 6 mois après. Puis il y a aussi des témoignages qui nous semblaient nécessaires, comme celui d'Alix, qui était gravement blessé à Sainte-Soline, vous l'avez peut-être vu dans le reportage d'Off Investigation, mais aussi Capucine Blouet, qui est observatrice à la Ligue des Droits de l'Homme, en fait, qui était présente, qui elle aussi avait 20 ans à Sainte-Soline, et donc ça nous semblait très intéressant ce qu'elle nous donnait, voilà, de partir des manifestations parisiennes qu'elle observait depuis longtemps pour la LDH, à les pieds dans la gadoue, comme elle dit, dans un trou perdu des Deux-Sèvres, quoi. Bon, on a plusieurs autres textes, hein, mais je citerai seulement celui d'Acrimed, une association de critiques de médias. Dans cette idée de violence médiatique qui revenait souvent, ça nous semblait fondamental qu'ils aient une place, et Benoît aussi a une très belle intervention sur le journalisme de préfecture en fait, qui est fait pour traiter de ces sujets-là, qui marche très bien pour d'ailleurs les événements les plus récents, comme en Kanaki ou le traitement du conflit entre Israël et la Palestine. Et puis, il y a deux livrets photos, avec des photos qui montrent pas que des éléments de violence. On a tenu quand même à mettre le camion qui brûlait, parce que c'est très médiatique, mais ça nous semblait aussi important. Mais il y a aussi l'outarde, il y a des bouées, il y a les cortèges. Voilà, donc il y a aussi des affiches, des slogans qui parsèment un peu l'ouvrage sur les côtés, vous verrez. Et il y a les dessins de Club de Bridge, qui est un artiste local, qui nous a fait une très belle couverture. Tous ces formats, en fait, il y a une cohérence, en fait, ils se répondent entre eux. Il y a des textes un peu plus techniques sur qu'est-ce que c'est une méga bassine, qu'est-ce que c'est les enjeux locaux, quoi. Quand on connaît pas Sainte-Soline, l'ouvrage en lui-même permet bien de recontextualiser. Alors bien sûr, l'objectif c'est de produire un contre-récit aux côtés de l'ouvrage des soulèvements de la terre, de ce qu'a fait Off Investigation, voilà. C'est une pierre à cet édifice pour dire qu'on n'oublie pas, qu'il s'est passé des choses, et puis pour rendre compte des luttes, et puis pour essayer de lutter contre ce discours hégémonique, médiatique et politique, des casseurs, des éco-terroristes, et de retenir qu'un phénomène de violence. Réanalyser le phénomène de violence, d'où il vient, quoi. Quand il y a 5000 grenades, quand il y a des quads, quand il y a deux personnes dont le pronostic vital est engagé, etc., etc. Un format qui repose sur des textes courts et des illustrations, qui rend l'ouvrage facile d'accès. Donc c'est aussi un ouvrage, moi je dis souvent que je l'offre à ma grand-mère qui l'a lu, quoi.
Et parce que c'est ta grand-mère.
Donc offrez-le à votre grand-mère, offrez-le à votre cousin, enfin voilà, et à vos parents. C'est aussi ça qui fonctionne bien.
Peut-être on peut commencer par parler du titre. Avoir 20 ans à Sainte-Soline, une référence directe à un film de René Vautier sur la guerre d'Algérie. A priori, ce parallèle entre le conflit mené par la France en Algérie et cette manifestation aussi violente qu'elle a pu être m'avait désarçonné.
Bon, bah, avoir 20 ans dans les Aurès, ce film de Vautier, sur une jeunesse qui est mobilisée de force, qui se fait complètement manipuler. Et on s'en justifie dans l'intro parce que on voulait garder raison. Effectivement, avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est pas tout à fait la même chose qu'avoir 20 ans dans les Aurès. Et en même temps, on trouvait qu'il y avait des échos, parce qu'au fond, voilà, on évoque une guerre de l'eau aujourd'hui, une guerre de l'eau, une guerre contre l'accaparement privé de biens communs, donc qui renvoie aussi aux luttes coloniales. Quand on parle de Sainte-Soline, beaucoup parlent de la bassine, donc cette énorme bassine, hein, c'était une forteresse assiégée, hein, au milieu d'un champ complètement plat d'agro-industrie. On a retourné et amené des tonnes de terre pour construire un énorme monticule qui a été ensuite creusé. C'est gigantesque, tout autour des barbelés, tout autour que des camions de gendarmerie, des gendarmes surarmés, et puis en haut, un peloton de commandement.
Il y avait aussi des canons à eau.
Une référence un peu à la guerre, il y avait cette l'idée d'un refus de l'accaparement des richesses naturelles de la terre, donc qui renvoyait à cette lutte de décolonisation de l'Algérie. Et puis aussi la question d'avoir 20 ans, de la jeunesse, du refus du monde tel qu'il tourne, le refus d'endoctrinement, le refus de la soumission à l'ordre militaire peut se rejouer ou en tout cas se déplacer sur une jeunesse des années 2020 dans une résistance au capitalisme, dans le choix d'une liberté de conscience, aussi de recherche de modes de vie alternatifs. Voilà, et puis il y a aussi dans les deux cas, encore une fois toute proportion gardée, mais l'expérience de la violence, de la répression, de la blessure. Donc ça, c'était un petit peu pour ça qu'on a choisi ce titre en fait.
Dans le collectif du Loriot, il n'y en a aucun de nous qui assimile ça à la guerre, en fait, c'est pas la guerre. Et c'est aussi une référence à l'ouvrage d'un collègue qui s'appelle Henri Eckert, qui a écrit « Avoir 20 ans à l'usine » aussi, aux éditions La Dispute.
Malgré tout, c'est pas la guerre, mais on voit bien qu'en fait, dans les logiques de maintien de l'ordre, il y a une brutalisation et une militarisation. Mmh. On a tous fait l'expérience, dans les manifestations les plus pacifistes qu'elles soient, il y a une répression qui est énorme, et avec des moyens qui ne sont pas les moyens qui permettent une pacification, une gestion à distance et pacifiée, ou du moins le plus possible, comme dans d'autres pays aujourd'hui. Et c'est notamment les travaux de Fabien Jobard, qui est sociologue politiste du CESDIP, qui montrent bien ce processus depuis 20 ans de brutalisation, de militarisation, avec des moyens militaires. Enfin, c'est vrai qu'il... Outre les arrêtés d'interdiction des manifestations, ben en fait, on avait un déploiement de moyens incroyables, donc déjà sur la route. Une mobilisation de 3200 gendarmes et policiers, 9 hélicoptères, 4 véhicules blindés, 4 canons à eau, 4 pelotons héliportables, un peloton de 40 gendarmes montés sur 20 quads, un positionnement infranchissable de camions de gendarmerie et de barbelés autour de la méga bassine, transformée en forteresse. L'utilisation de plus de 5000 grenades, dont des centaines explosives et mutilantes, contre les manifestantes et manifestants en moins de 2 heures. C'est les sources de la gendarmerie. 5000 grenades en 2 heures. Par minute, c'est.
Une seconde et demie.
Il y a clairement des moyens militaires qui sont mis à disposition avec un coût exorbitant pour l'État, pour les contribuables. Voilà, c'est pas la guerre, mais ça commence à y ressembler en fait, sur certains aspects. Pour défendre de la terre nue.
C'est un trou, parce qu'il n'y a même pas de tuyau, c'est un cratère vide, pas un tuyau, il n'y a pas de bâche. C'était un bout de terre. En fait, si la police ne s'était pas positionnée autour, sans doute il aurait été rebouché, la terre aurait été bougée, mais il ne se serait pas passé grand-chose dans ce champ. Donc c'est l'État qui fixe le niveau de violence.
Il y a un truc qui m'a intéressé, c'est le rapport au collectif. D'abord le collectif large, l'émotion de voir des grands cortèges, de se voir des milliers, etc. Et puis, à une beaucoup plus petite échelle, le fonctionnement en binôme, en trinôme, prendre soin des personnes avec lesquelles on est venu, qu'on soit 2, 3, 5.
Un binôme, c'est la personne avec qui vous allez à la manif ou la mobilisation, et on s'assure de la sécurité mutuelle pour pas être séparés, voilà. Ou le trinôme, c'est quand il y en a 3. Un moyen aussi de garantie à la fois de survie, du fait que ça se passe bien, en fait, la manif. Nuage de lacrymo, c'est fondamental en fait dans ces situations-là de ne pas être tout seul, de ne pas être isolé.
Effectivement, c'était une consigne.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, ça fait un peu maintenant partie des modes de mobilisation en manifestation. C'est quelque chose qui est en train de se diffuser, effectivement, lié à la brutalisation des forces de l'ordre et de la répression des mobilisations sociales et écologistes. Il y a ces consignes et c'est un mode d'action qui est parfaitement organisé et qui a été transmis sous la forme de consignes en amont de la manifestation et en arrivant. C'était vraiment un mot d'ordre de trouver en fait un groupe affinitaire, de ne pas rester seul. Et sur cette question collective, en fait, oui, c'est quelque chose de très fort et qui a été, notamment sur ces convois-là, cette espèce de ferveur collective de la traversée des plaines pour se rendre à la bassine, puisque la manif avait été interdite, donc en fait, le point de rendez-vous était assez éloigné. On a marché une heure et demie, j'ai encore oublié. On a autre chose, on a un rapport au temps assez dilué de cette journée. Donc on marche longtemps, et ça c'est vrai que c'est quelque chose dont tous les entretiens parlent, et les témoignages directs, c'est ce sentiment de beauté, d'énergie, de sentiment qu'il faut être là, que c'est là où ça se passe, et que c'est la lutte à mener, enfin voilà.
L'irrigant veut ton nom, mon ami, ton puits est ton ruisseau.
L'irrigant veut ton nom, mon ami, le puits est ton ruisseau.
Tout ce qui coule, il le convoite, il te lâchera jamais la nappe.
Le maïs est soifa, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soifa,
y'a plus d'eau pour le ricard.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants. Qui
ils ont fondé une
coppe,
mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils intriguent, font des digues, sont une ligue qui nous fatigue. Mais le maïs est soifa, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soifa, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soifa, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soifa, y'a plus d'eau pour le ricard.
Ils parlent d'agribashing, mon ami, pour construire leur bassine.
Ils parlent d'agribashing, mon ami, pour construire leur bassine.
Islam anti queen mon ami pour bâtir leur piscine.
Islam anti queen mon ami pour bâtir leur piscine.
C'est la goutte d'eau, y'a plus que la vase. Plus c'est con et plus ça pavoise. Le maïs est soifa, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soifa, y'a plus d'eau pour le ricard.
La coppe de l'eau nous pompe mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
La coppe de l'eau nous pompe mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
La coppe de l'eau nous pompe mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe. Tandis qu'ils greenwash mon ami, on taillera leur bâche.
Tandis qu'ils greenwash mon ami, on taillera leur bâche.
Toute l'eau s'écoulera, nous on n'y touchera pas.
Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire. Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire.
Mais le maïs ce sera tricard et on boira du vin de la Loire.
Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire.
Et donc ça, c'est quelque chose de très fort, d'avoir vécu collectivement cette journée-là, au-delà de ce qui s'est passé autour de la bassine, c'est déjà très galvanisant. Et puis l'autre dimension que tu évoquais, c'était voilà, c'est binôme et c'est trinôme. Comment le collectif y tient aussi avec des, ou pas, avec des désaccords de là où on a envie d'être, même si on se dit ok, a priori, ben, on y va, on est tranquille, on est manifestant tranquille, et en fait, ce qui se passe autour de la bassine, quand on voit cette répression, cette violence des forces de l'ordre, quand on commence à voir des blessés, quand on entend médic, médic partout, c'est d'autres choses qui sortent beaucoup des récits, hein. Ce bruit en fait, des jets, des grenades lacrymo ou mutilantes, plus médic, médic partout, il y a quelque chose vraiment de très oppressant, de très difficile. Et puis bah, certaines veulent aller aider ceux qui sont en première ligne, disposés à aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et parfois, ça fait éclater les binômes. Donc c'est le cas, par exemple, de Yaël et Louise, qui en fait ne sont pas d'accord sur la manière. Yaël, il a envie d'y aller, il a envie voilà, d'aller devant, et Louise, sa binôme, ben, elle se sent pas en sécurité, elle n'a pas envie, elle n'est pas disposée en fait, à cet affrontement, à la violence, à cet affrontement physique. Donc voilà, donc c'est aussi voilà, comment ils ont réglé, ils ont trouvé d'autres personnes, ils ont recomposé sur place des binômes. Et ce que dit Louise aussi après, c'est comment on parle de cette mobilisation, de quelle manière en fait se constitue au sein du milieu militant, c'est assez vieux en fait, des sortes de gradations de légitimité dans le militantisme. Voilà, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas, ou voilà, ceux qui sont prêts à aller au front, aller aux forces de l'ordre, à faire une action violente ou à faire une action voilà de désarmement, et ceux qui ne le sont pas. Et donc lui, elle dit, ben dès qu'on parlait ensuite de Sainte-Soline, on disait ouais, mais toi t'étais où? C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que t'étais devant, quoi? Est-ce que t'as le droit? Et donc, elle se pose la question, est-ce que moi, j'ai le droit de dire que j'étais à Sainte-Soline? Parce qu'elle est restée plutôt en retrait par rapport à cette première ligne de violence. On retrouve, en fait, des questions qui sont un peu en filigrane dans les mouvements sociaux, militants, de gauche, anarchistes, autonomes, qui sont, tu fais quoi, toi, dans le mouvement? Et on retrouve, en fait, une sorte de division du travail militant, avec des formes de hiérarchie informelle, critiquées hein, au sein des mouvements, qui sont remises en question, interrogées, parce que derrière, on retrouve aussi une division sexuelle du travail, en fait, hein, entre le travail productif du militant qui va être à l'avant, masculin, qui va être à l'avant, qui va être dans la stratégie, qui va aller au front, et puis le travail de reproduction, la force de travail, la force militante, traditionnellement dévolue aux femmes, que là, on va retrouver dans les bases arrières. Voilà, donc on a aussi cette réflexion qui est en filigrane, qui n'est jamais théorisée.
Ces milieux d'organisation sont souvent très réflexifs hein, sur leurs pratiques. Yaël, quelqu'un qui a fait Sciences Po, qui a commencé à militer à la gauche institutionnelle, en fait, et qui s'est décalé jusque très proche de la CNT, voilà. Et donc qui a été beaucoup travaillé par le mouvement MeToo, et qui, lui, avait une réflexion sur les pratiques de genre, qui remettait en question certaines choses... Et ce qu'on voit, c'est qu'en pratique, en fait, quand la situation est donnée, les dispositions, en fait, changent, et du coup, il en vient à échanger sa binôme, en fait, pour aller vers cette situation. Et en fait, cette contradiction des pratiques et des discours, il en parle justement dans l'entretien. Et c'est assez intéressant de voir comment on fait face à ces tiraillements, en fait. C'est aussi ça qui éclaire pas mal ses portraits, c'est les tiraillements internes. Je pense aussi à Laura, qui est pris dans un déchirement entre sa peur de la police, son traumatisme, en fait, qu'elle a vécu durant le mouvement des Gilets jaunes, sa peur de la police, en même temps, comme elle le dit, ce pavé qui gratte sous le pied, quoi. C'est une militante anarchiste. Elle est dans une ambivalence, en fait, tiraillée entre ces deux éléments qui l'écartèlent, en fait, qui lui ont fait perdre le chemin des manifestations, qui l'ont fait quand même venir à Sainte-Soline, mais qui lui ont laissé des marques qui font qu'elle a hésité à revenir, qu'elle reviendra sans doute à la prochaine, mais... Et donc, en fait, on est bien loin des gentils manifestants et des vilains manifestants, des casseurs et des pacifistes. On voit que dans une même personne, en fait, il y a des tiraillements.
Il y a peut-être quelque chose d'assez perceptible dans les mobilisations actuelles autour des méga-bassines, mais plus largement celles qui sont aussi portées par les soulèvements de la Terre, c'est-à-dire la logistique qui est nécessaire à ce type de mobilisation, qui sort du cadre voilà, des mobilisations anciennes, syndicales, urbaines, encadrées voilà, par des organisations syndicales. Là, c'est que il faut organiser toute une logistique pour pouvoir faire cette mobilisation. Et donc, on a besoin de cette fameuse base arrière, où là, on va garder des enfants, éplucher des pommes de terre, faire une basse soin, monter des scènes pour un concert, pour des prises de parole, etc. En fait, il y a besoin d'une main-d'œuvre militante assez importante, au-delà de la manifestation ou de la manifestation. Une force de ces mobilisations-là, c'est qu'il y a cette possibilité de dire ben, « moi, j'ai l'impression que je ne suis pas très légitime à être militante ». Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je n'ai pas le savoir militant, je ne connais pas les grandes théories. Vous me parlez d'auteur, je ne connais pas. Vous me parlez d'homme ou de femme politique, je ne connais pas, ou de militant, je ne sais pas trop. Mais par contre, ouais, éplucher des pommes de terre, je sais faire. Ou faire un plat, ou aider voilà, l'intercantine, ou faire de l'accueil, aider d'une manière ou d'une autre, ça je sais faire. Cette diversité des tâches militantes, en fait, elle va laisser la place à des appropriations diverses par des personnes diverses qui ont des savoir-faire et qui aussi ont cette logique qui est aussi un peu diffusée, c'est-à-dire un peu d'éducation populaire, en fait, qui vient aussi du milieu anarchiste, de do-it-yourself, qui est, en fait, on apprend en faisant. Et donc, c'est une articulation dans ces mobilisations, il me semble, à la fois de la pensée et du travail et du faire. On a cherché à casser cette dichotomie entre violent et non-violent et à montrer que au sein même d'une personne, en fait, on est tiraillé sur ces questions de violence et que, en plus, toutes les personnes qu'on a interrogées, elles ont exprimé, en fait, la colère de ne pas être entendue, c'est-à-dire d'être violentée, justement. Pour certains, on a fait les mobilisations, les marches pour le climat. Pour d'autres, on était gilets jaunes, on s'est pris des LBD. En fait, dès qu'on proteste aujourd'hui, en fait, on est réprimé et on ne sait plus quoi faire pour être entendu. Et il y a une urgence climatique, et il y a une urgence sociale, et il y a une urgence... Et on ne sait plus quoi faire pour être entendu, donc particulièrement sur cette question de la violence institutionnelle, à l'entretien d'Amélie, qui est psychomotricienne et qui a travaillé en différentes institutions de soins. Quand elle va à Sainte-Soline, elle travaille en milieu carcéral. Elle a fini par démissionner aussi parce qu'elle disait « Mais en fait, la violence, je la retrouve partout et je la retrouve dans mon métier, en fait, en permanence. » Alors, on est violent entre nous, collègues, on est violent avec les usagers. En permanence, il y a des formes de violence. Sa trajectoire pour se rendre à Sainte-Soline et de la manière dont elle en sort aussi est constamment constellée de cette question-là, quoi. Comment, en fait, on est confronté à la violence, qu'elle soit symbolique, institutionnelle et là, physique, en permanence dans nos vies, alors qu'elle souhaite être, et c'est pour ça qu'elle est devenue psychomotricienne, elle dit je vais être dans le soin, moi.
Ce que je vais vous dire n'est pas scientifique, c'est ce que j'ai cru voir moi ce jour-là. Je suis très surpris de ce débat-là, est-ce qu'il y a des actions qui sont genrées ou pas, en l'occurrence la violence physique. Moi j'ai cru voir des personnes qui semblaient être des femmes habillées tout en noir, il n'y avait pas que des hommes dans la première ligne de front, donc ça c'est l'une des choses que j'ai trouvées assez marquantes. En l'occurrence, j'ai aussi deux potes, bah, ils épluchaient des patates, et je pense notamment à un pote qui a participé à fabriquer les délicieux moelleux à l'orange qui ont été distribués en cours des manifestations. J'avais jamais vu ça non plus, de cette manière de prendre soin d'encadrer la manifestation. Il y avait des binômes ou des trinômes de gens avec des porte-voix, prenez soin. Moi, j'ai jamais vécu un accueil en tant que manifestant. Voilà, au niveau du care, puisque j'ai été vraiment très très surpris aussi par la bienveillance de l'orga, m'a-t-il semblé non genré. En ce qui concerne la violence physique, j'ai quand même bien cru observer qu'il y avait des jeunes hommes et a priori des jeunes femmes en noir qui apparemment savaient ce qu'ils voulaient faire.
Sur la question du genre, c'est vraiment une question super importante et intéressante. Alors, je voudrais pas avoir l'air de caricaturer en disant tous les hommes étaient au front et les femmes en bas arrière. La difficulté, en fait, quand on parle de genre, c'est qu'en fait, on parle un peu de rapport au monde, d'une intériorisation du fait de notre socialisation qui n'est pas la même selon qu'on est un petit garçon ou une petite fille et qui va produire... donc, c'est des tendances. Aujourd'hui, je vais dire, c'est bon, on est mixte, il y a équité, là, il y a autant d'hommes que de femmes. Généralement, quand on pense ça... Dans des mondes plutôt masculins, il y a un tiers de femmes et deux tiers d'hommes, et on dit « Ah, c'est bon, on est égalité ». En fait, si tu comptes vraiment, t'as pas bien vu. Puis inversement, des fois, pour des univers très féminisés, les hommes, on les remarque plus, donc tout d'un coup, voilà. Et oui, il y avait des femmes en première ligne et des femmes très organisées, parce que, effectivement, cette manifestation aussi, pour certains, elle a été saisie hein, comme une occasion, oui, d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre et d'avoir des victoires symboliques sur les forces de l'ordre. Et sur le care, c'est super important. C'est parallèle avec la brutalisation. On sait qu'on prend le risque d'avoir de la répression policière. Ben derrière, il faut installer des soins. Quand la manifestation va durer plus de 2 heures, 3 heures, au milieu de nulle part, il faut organiser le ravitaillement. Enfin, c'est un peu cette logistique. Donc oui, il y a cette question du care, du travail de soins, qui prend plusieurs formes et qui, effectivement, est une dimension très importante de ces mobilisations.
Il y a bien 3 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 3 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 2 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 2 heures qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Passant par les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Passant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Il y a bien 1 heure qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Il y a bien 1 heure qu'on suivait l'anguille pour aller démonter les méga-bassines.
Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
Traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
En traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit sur les estafettes.
En traversant les champs, on ramasse des pierrettes et on se divertit
Il y a des témoignages intéressants parmi ceux que vous recueillez, notamment d'une personne qui dit « Mais mes parents étaient à la manif, et le soir même, quand ils ont entendu les infos, ils ont limite pris le parti du récit médiatique en disant « Mais en fait, on n'a rien à voir avec tout ça, c'est beaucoup trop violent, etc. Mmh. » C'est d'autant plus intéressant que les Soulèvements de la Terre, un des principaux organisateurs de cette manif, fait depuis le début de ses actions un gros travail de mise en récit de ses manifestations et de ses actions. Ils s'expliquent dans leur livre du choix de parler de désarmement plutôt que de sabotage. Mmh. Ils mobilisent des gros moyens. Malgré cette tentative de contrôle du récit, les témoignages le montrent, ça leur échappe totalement.
Le récit, ouais. Marcel qui témoigne dans les Soulèvements de la Terre ou des discussions informelles, ou aussi les critiques et les débats qui ont eu lieu suite à Sainte-Soline, avec des critiques d'un certain nombre de personnes présentes en disant bah, « En fait, vous nous avez envoyé au casse-pipe face au danger. » Voilà, des gens comme Julien Leguet de BNM, de Bassinon Merci, ou même des gens des Soulèvements, disent tout à fait qu'ils ne s'attendaient pas à un tel niveau de répression, en fait. Ça a été même un peu difficile à un moment d'arrêter la manifestation et de retourner à la base. Parce qu'en fait, il y avait tout simplement presque un manque d'équipement par rapport déjà au nombre de personnes présentes. Mais il fallait prévenir tout le monde avec quelques mégaphones. Donc ils disaient « Non, non, il faut arrêter là, on retourne au camp ». Et en fait, ça passait très mal parce que tout le monde était très éparpillé sur un espace très large. Des mégaphones parfois un peu défectueux, un peu fragiles en termes de portée.
Contrairement à la manifestation précédente, hein, puisqu'il y a eu plusieurs manifestations anti-bassines et c'était la deuxième à Sainte-Soline, il m'a semblé voir qu'il y avait un sous-dimensionnement de l'équipement, notamment en termes de mégaphones, par rapport au nombre de militants. Ils ne s'attendaient pas, je pense, d'avoir autant de personnes, et donc l'information circulait aussi beaucoup moins bien, ce qui explique ça.
Clairement, il y a un travail actuellement fait par les Soulèvements, par BNM, de constituer son propre récit, voilà, avec un groupe spécifique dédié à ça, qui s'est constitué à l'occasion du convoi de l'eau, qui s'appelle Trace, et qui cherche à, en fait, au cours des mobilisations, à recueillir un certain nombre de traces de cette mobilisation, produire aussi sa propre histoire, en fait, et pas se laisser voler. Voilà, donc il y a des enjeux de communication. Ben, oui, il faut essayer de convaincre, de dire qui on est, et de maîtriser le récit de qui on est. Mais il y a aussi, peut-être, et nous, en tout cas, ça a été notre intention en faisant avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est de documenter, de dire, voilà, on contribue modestement enfin, à une histoire sociale de cette mobilisation-là, de ce mouvement-là, et c'est à la fois important pour aujourd'hui, mais c'est peut-être important aussi pour les années et les mois à venir, c'est de dire, voilà, on a une trace, on a un certain nombre de témoignages, d'analyses, d'expertises, d'expressions, sur avoir 20 ans à Sainte-Soline.
L'un des grands mérites de ces témoignages et de ces récits, c'est de laisser beaucoup de place aux affects et aux émotions.
On avait une grille d'entretien commune. Des questions, c'est pas très détaillé. Quelles sont les bonnes raisons qu'ils ont de faire ce qu'ils font? Et ça joue cette question des émotions et de pourquoi.
On a l'habitude de poser des questions sur des faits, sur des pratiques. Après, les opinions, elles viennent un peu toutes seules, parce qu'on va justifier, expliquer pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait... Les opinions, les affects viennent assez naturellement. C'est que les entretiens sont déroulés entre, voilà, 3 et 6 mois après Sainte-Soline. et en fait qui avaient un besoin de parler de ce qui s'était passé. Et pour certains qui n'avaient pas eu l'occasion de débriefer avant dans des groupes affinitaires ou des groupes militants, ça a été l'occasion en fait de parler. Donc effectivement, il y a beaucoup de place aux affects. Je vais vous lire un extrait d'Amélie. Elle a une trajectoire de militante, elle a l'habitude des manifestations, elle a côtoyé un peu le Black Bloc. Elle a plutôt l'habitude et elle dit, voilà, c'est la première fois en manifestation que je ne sais pas quoi faire. Ce que beaucoup ont partagé, c'est de la sidération face à ce qu'ils voient, ce qu'ils observent et ce qu'ils éprouvent à Sainte-Soline. Elle dit, en arrivant à la bassine, c'est là où on voit que tout explose, que ça pète déjà avant qu'on arrive. On est un des derniers cortèges arrivés. Et là, je vois un mec qui a le visage ensanglanté, je vois que ça court de partout. Et j'avoue, moi, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. C'est la première fois en manifestation que je ne sais pas quoi faire. J'ai des potes qui prennent du blé et qui viennent tasser les lacrymos. Enfin, je les trouve formidables. Ils ont déjà des prises d'initiative que je n'ai pas. Je sais pas s'il faut que j'aille chercher des cailloux pour alimenter les manifestants et manifestantes. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. À ce moment-là, je suis sidérée. Je suis en spectatrice complètement impuissante et c'est horrible comme sensation de ne pas savoir où me mettre. Donc j'ai marché un peu autour, mais un peu loin, et tout en me disant « mais en fait, à tout moment, je me prends quelque chose. » Je ne me sentais pas à ma place, je ne savais pas quel rôle et quelle place avoir dans la manif. Et donc je suis spectatrice, complètement spectatrice. Et en même temps, je sais que je ne peux pas faire quoi que ce soit. Ce n'est pas juste de la sidération, on ne pense à rien et on est bloqué. Non, c'est que là, je suis spectatrice et c'est insupportable, je ne savais plus quoi faire. Même moi, je me voyais de l'extérieur, je n'étais pas dans mon corps, j'étais nulle part. Là, a posteriori, en parlant, je me rends compte que c'était quand même vachement particulier comme expérience. Je sais que c'est violent, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est comme si tout venait, toutes les informations venaient de manière très brute. C'est là, pam pam, un enchaînement de trucs bruts. Cet état de sidération, il est assez partagé. Je me permets de lire un autre extrait de notre jeune lycéen, là, notre mascotte de 17 ans, Mathis. Il prépare vaguement le bac et il est à Sainte-Soline. Toujours au même moment, quand il arrive autour de la bassine, il dit « C'est là que je vois que ça a commencé, que les policiers ont commencé à tirer les lacrymos. On entend les explosions, on voit les fumées. Je ne viens pas pour combattre, pour être au front. Mais en arrivant, tu vois ce tableau avec tous ces gens, cette fumée, ces véhicules de police au loin. J'ai un sentiment de pré-combat, d'avant la tempête. » Il y a de plus en plus de gens autour de nous. Les policiers sont très nombreux. On contourne la bassine par la gauche. Je vois une marée humaine en train de descendre dans le champ. Je vois les fumées au loin, les explosions. Mais je n'ai pas peur. Je suis même émerveillée. Je n'arrive pas trop à décrire ce sentiment. C'est la première fois que je vois ça. Je suis impressionnée. C'est comme un tableau de bataille, même si j'aime pas utiliser ce terme. Ouais, voir autant de gens qui soutiennent une même cause, déterminés à manifester, à prendre cette bassine, qui sont là comme toi pour défendre un monde meilleur, c'est beau, c'est de l'émerveillement.
Toute petite remarque aussi sur le récit, il me semble qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Darmanin qui a menti. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Mmh. Et une question aussi, justement, est-ce que vous avez un témoignage d'un jeune qui est venu aussi dans une optique de violence et qui s'est un peu préparé là-dessus ?
On a aussi fait des entretiens avec des militants qu'on connaissait qui sont plus organisés sur cette question de la violence. On a choisi de ne pas les garder. Il y avait un enjeu d'anonymat. Tous les noms et les parcours sont anonymisés. Là, l'anonymat jouait encore plus, puisque c'était des gens qui étaient organisés dans des milieux antifascistes, voilà. Et aussi, en fait, dans l'entretien, ces gens savaient qu'ils devaient pas nous dévoiler à nous des choses. Donc, en fait, ça créait des situations un peu rocambolesques, des fois, sur... On savait qu'ils disaient pas tout. Enfin, voilà, ils baissaient pas la garde, quoi. Donc, voilà. Notre objectif, c'était pas non plus de percer à jour des secrets d'organisation, quoi.
Est-ce que vous êtes entretenu avec des flics qui auraient eu dans la tranche
d'âge ? Être flic à Sainte-Soline, ça sort l'année prochaine.
C'est marrant, mais avoir 20 ans chez les flics à Sainte-Soline... Alors, on s'est pas du tout posé la question. Bon, ça aurait été aussi compliqué, je pense, que de trouver la parole d'un fonctionnaire de police.
C'est la gendarmerie, hein, c'est la grande muette.
Peut-être.
Faudrait trouver des démissionnaires.
Ça doit exister. Hein, mais...
On a un fils de gendarme. On parlait des tiraillements, par exemple. En fait, ils ont tous un certain nombre de tiraillements. Amélie, son père, il est agriculteur conventionnel. Ben, je suis en train de trahir mon père, hein, là-bas.
Louise, son père, son beau-père est gendarme. Et Simon, son frère est gendarme, son père
son
est gendarme.
Son père, il est en rupture avec sa famille. Il a peur de se dire, en face de moi, en fait, ça se trouve, c'est mon père ou mon frère.
Il a grandi en caserne et il a un certain nombre des potes
d'amis d'enfance
qui sont gendarmes.
Puis lui, il est avec un groupe affinitaire assez déterminé. En montant dans la voiture, voilà, il y a un membre du groupe qui a des mortiers, qui est fiché S. Voilà, ces tiraillements, ces conflits, comment on en discute et comment on essaie de les régler politiquement, collectivement, dans les groupes affinitaires et plus largement dans les organisations. Mais il y a aussi à l'échelle de sa propre vie et de sa propre expérience.
Comment est-ce que le livre a été accueilli, d'une part dans les espaces éventuellement militants où vous avez pu le présenter, d'autre part dans vos espaces professionnels ?
Dans les espaces militants, on a eu de très bons retours. Les gens ont apprécié qu'on documente en fait ce qui s'était passé, et surtout que ça soit des matériaux assez bruts. Quand on présentait à Angoulême, il y a une dame qui a pris la parole, en fait son fils était à Sainte-Soline, et elle a pris le bouquin à son fils. Ça lui a fait beaucoup de bien de lire ce qui s'était passé, avoir un autre point de vue aussi que le point de vue médiatique. En termes de relation avec les proches, c'est important d'avoir d'autres supports aussi de diffusion, qui soient pas forcément son récit à soi, mais un truc plus collectif comme ça, dans un objet légitime qui est un livre. Et puis dans le milieu académique, en fait on était assez sceptiques, parce qu'on se disait c'est pas de la sociologie académique qu'on a fait. Les collègues sont très très contents, c'est assez bien reçu. Et en fait on est aussi à une période où il y a beaucoup de chercheurs qui s'engagent sur les questions écologiques, il y a pas mal d'organisations en fait. Alors, plus des personnes qui sont peut-être dans le milieu des sciences naturelles. À notre échelle, j'ai l'impression que ça nous montre aussi ça, que nos collègues nous disent, c'est pas mal, quoi, de faire ça.
Voilà, on a plutôt des bons retours. Les rencontres font souvent l'objet d'échanges, de discussions super intéressantes, aussi avec des points de désaccord. Bon, on se protège un peu, on n'est pas les stratèges de mouvement, donc on est là pas pour dire comment faut faire, et voilà. Il y a aussi l'occasion de permettre à des personnes de parler de Sainte-Soline, y compris pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Je pense à une jeune femme, en fait, qu'on a rencontrée là sur une rencontre à Poitiers. Et donc, elle était à Sainte-Soline et en fait, elle était en Erasmus à ce moment-là. Et dès le dimanche, elle a dû repartir en Allemagne. Et en fait, elle a eu l'occasion d'en parler avec personne. Et elle s'est rendue compte après coup qu'en fait, elle sursautait au moindre bruit, qu'elle pleurait souvent. Voilà, moi ça m'a permis aussi de la mettre en lien avec des personnes qui s'occupent des traumatismes liés à Sainte-Soline, puisqu'il y a dans le soin qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi ça qui a été mis en place par les organisations avec du soin psychologique ou de méthodes post-traumatiques. C'est un bouquin où il y a de la socio dedans, mais c'est pas un bouquin de sociologie. Enfin, on a la chance malgré tout d'être en sociologie, qui est quand même pas une discipline complètement neutre en termes d'attention au mode social, attention aux conflits, aux luttes, aux rapports sociaux, et donc à la question des inégalités, d'un certain nombre de choses. Donc on est aussi tous dans le collectif très nourris du travail de Pierre Bourdieu. Un certain nombre d'entre nous sont venus à la sociologie par Pierre Bourdieu, et là je parle par exemple de moi. Pourquoi je me suis inscrite en fac de socio, c'est aussi parce que j'avais entendu parler du travail de Bourdieu. J'avais 20 ans en 95, la mobilisation des cheminots. Grosse grève partout en France, gros blocage un peu partout en France. Et en fait, c'était déjà une tentative de réforme de la retraite des cheminots et des régimes spéciaux de retraite. Sauf que les cheminots ont bloqué, et ils ont bloqué le pays. Et donc, ça a fait une grève très longue. Et Bourdieu est descendu du Collège de France. Enfin, j'exagère, mais voilà, son travail a pris une dimension politique. Ses prises de parole ont été plus ouvertement politiques. Voilà, il y avait une logique néolibérale qui était nouvelle, qui en fait accentuait la destruction des services publics. Enfin, des choses en fait qui n'ont été que confirmées et accentuées depuis. Voilà, donc on est aussi dans une discipline avec des auteurs qui ont autorisé le fait que nos travaux doivent avoir une utilité sociales doivent être appropriées par les citoyens, par les militants, par un certain nombre d'acteurs de la société. Pour moi, il y a une continuité logique. Voilà, est-ce que vous êtes chercheur ou est-ce que vous êtes militant ? Ce bouquin, c'est... Ben, en fait, on est un peu tous à la fois et on essaie de tenir ces deux positions à travers ce livre.
On a été complètement soutenu par notre laboratoire. En fait, il y a un petit laboratoire de recherche qui s'appelle le GRESCO.
Comment ça, un petit ?
Petit par les financements. Petit par les financements qui reçoit. C'est un labo CNRS, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est une unité de recherche. Le directeur du laboratoire a encouragé, tout comme nos collègues. Ils ont donné un peu d'argent pour financer le livre, parce que ça coûte un peu cher. C'est un éditeur indépendant, voilà. Si on n'avait pas eu un capital de départ, on n'aurait peut-être pas pu avoir les pages couleurs, en fait, pour le livre. Sur l'autre auteur institutionnel, les universités, par exemple, ne nous contrôlent pas parce que il ne s'intéresse pas à ce qu'on fait.
En fait, on est quand même aussi à l'université, mais comme dans tous les services publics, ultra malmenés depuis très longtemps. Donc on est dans la violence institutionnelle dont on parlait tout à l'heure. Nos conditions de travail, mais surtout, on pourrait dire, les conditions d'accueil des étudiants se dégrade de manière régulière, en tout cas. On a encore des marges d'autonomie malgré tout, en tant qu'universitaire. Si on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire notre recherche, nous on a besoin d'un magnéto là, et puis un peu d'un ordinateur pour écrire, et encore, globalement, on peut faire de la recherche avec peu de moyens. C'est pas la même chose pour les collègues en physique, qui ont besoin de matériel qui coûte cher, ou qui ont besoin en fait d'avoir beaucoup d'argent. La recherche, elle est nécessairement financée par de l'argent privé. Toutes les recherches, c'est sur appel à projet, donc on doit faire un gros projet. Ce sur quoi on va chercher, il faut donc dire qu'on fait de l'international, du pluridisciplinaire, mais il faut aussi faire un budget dans lequel il y a au moins 50% qui vient du secteur privé. Donc autant vous dire que ça ligote complètement la recherche, hein, et c'est par exemple ce que raconte très bien, enfin pas dans l'ouvrage là, mais Anne-Morouane Pastier, donc docteur en hydrogéologie. Elle l'a dit un petit peu dans le livre, qu'il a décidé de quitter la recherche académique, parce qu'en fait, ce qu'elle voit, c'est que en fait, toutes les recherches sur l'eau, par exemple, sont financées, je vous le donne en mille, par qui ? Comment ? Veolia, Nestlé, voilà. Donc en fait, enfin, il n'y a plus du tout de liberté. Donc nous, humblement, on s'est dit, ben, en fait, on a un peu d'autonomie malgré tout dans nos métiers. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des recherches, pour faire des entretiens. Effectivement, notre institution quand même regarde ce qu'on fait, mais uniquement d'un point de vue quantitatif. Est-ce que vous avez publié suffisamment d'articles dans des revues de rang A, enfin avec des classements et des hiérarchies? Bon, à partir du moment où on fait staff, globalement, on peut faire des choses. Donc on s'est saisi de ça aussi.
Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a une surdimension, une surinterprétation de l'influence des médias sur les événements? Je ne suis pas sûr que l'influence des médias sur la population en France soit aussi forte qu'elle est décrite.
Mais moi, je distinguerais différentes choses et différentes temporalités là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la temporalité de l'après Sainte-Soline et de comment médiatiquement, dans les médias, et notamment les chaînes d'information continue, chez CNews, dans les médias plutôt réactionnaires et plutôt traditionnels, cette séquence politique et cette répression, elle a été traitée. Il y a ensuite, effectivement, tout le travail qui a été fait par des militants, par des médias alternatifs, indépendants, pour essayer de rétablir des faits. Et donc, bah, cette couverture médiatique à charge contre les mobilisations anti-bassines, elles ont quand même permis, médiatiquement, que des médias centraux comme Le Monde, Libération, plutôt de la presse écrite d'ailleurs, s'intéressent au sujet des méga-bassines, s'intéressent à la question de l'eau. On a une petite victoire qui était difficile à dire, parce que quand on avait 200 blessés, dont 40 avec des pronostics difficiles et 2 en pronostics vitaux engagés, c'était un petit peu difficile de dire ça, mais il y avait quand même la victoire qu'on a réussi à mettre à l'agenda médiatique et politique la question de l'eau, qui jusqu'à présent était passée complètement sous silence. Donc ça, c'est effectivement une victoire. Mais globalement, moi je pense qu'il faut aussi se méfier, voilà, de nos impressions. C'est pour ça aussi qu'on est, on est un peu sociologue, c'est que, oui, autour de nous, on peut se dire, oui, quand même, les gens ont l'air plus favorables, les gens ont notre regard, mais en fait, bon, si on va voir dans d'autres milieux très éloignés, on trouve que quand même, ces gens sont extrêmement radicaux, que ces gens qui manifestent de manière très violente, ça va vraiment pas, qu'on a besoin d'ordre dans cette société, que ça va peut-être leur faire la leçon d'avoir voilà, été réprimés de cette manière-là. Quand même, la question de l'agriculture, ben, il faut bien nourrir le monde. Ben, on a besoin d'eau, hein, donc l'agriculture a besoin d'eau. C'est une bonne solution, en fait, hein, parce que, ben oui, il y a des sécheresses, mais regardez, vous avez vu cet hiver comme il a plu, ben oui, ben, il faut prendre l'eau quand elle est là, là, elle est là, il faut remplir les bassines, c'est une très bonne solution. Donc méfions-nous de nos entre-soi sociaux et militants, même quand on a l'impression d'aller au-delà de ces cercles-là et de découvrir des gens un peu différents de nous, en fait, on reste quand même dans des proximités sociales qui trompent notre regard, quoi.
La commission d'enquête de l'Assemblée nationale, si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande. C'est comment l'Assemblée nationale mène son enquête sur qu'est-ce qui s'est passé.
Effectivement, la vidéo puis le rapport, c'est assez terrifiant en fait. Hein. Il y a une volonté d'un certain nombre de parlementaires, alors, des formes de répression non plus policière et non plus physique, mais alors toutes les tentatives ont été faites, y compris là sur d'un point de vue judiciaire, en fait, avec des aussi ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, mais un certain nombre de militants qui ont été jugés et puis condamnés. Mais il y a aussi ce rapport parlementaire. Donc là, on essaye par la voie politique, en fait, de réprimer. Donc voilà, il y a des propositions d'élargissement des peines d'interdiction de manifestation ou de recours à l'intelligence artificielle pour surveiller les militants et militantes. Donc des choses qui en fait sont déjà existantes dans les pratiques, mais qui là vont être, qui cherchent voilà, un recours légal pour pouvoir être fait.
Sur la question de la condamnation de la solidarité, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucune organisation parmi les organisateurs en fait, qui s'est désolidarisée en fait, des événements. Et ça, c'est sans doute une première dans une situation comme celle-ci, avec un tel niveau de violence, là où en fait, dès qu'il y a une manifestation où il y a 2-3 dégâts, il y a toujours la CFDT ou le PS qui va dire attention. Si le PS était à Sainte-Soline,
ou la CGT aussi, ou la CGT, qui va dire c'est les black blocs. La violence, c'est les black blocs. Nous, on a notre service d'ordre, ça n'arrive pas. En fait, c'est plutôt ça. Et donc, il y a une désolidarisation. C'est assez classique dans les manifestations jusqu'à présent. C'est quand il y a des formes de violence, c'est on renvoie à un groupe, un groupuscule, voilà, les autonomes, les black blocs. On ne sait pas trop parfois comment les appeler. On mélange un peu tout ça. Et globalement, c'est eux les violents. Et on se désolidarise en disant, nous, on est des gens sérieux, on manifeste. Et, voilà. Et là, en fait, il n'y a pas du tout eu ça. Il n'y a pas eu cette désolidarisation. L'ensemble des organisations, là, je parle en termes d'organisation. Les soulèvements de la terre, sinon merci. La Confédération paysanne, même, qui a plutôt une habitude voilà, de désobéissance civile, mais très attachée à la non-violence, qui se pose aujourd'hui des vraies questions enfin, sur toutes ces mobilisations. Il n'y a pas eu, en tout cas, pour ces trois... organisateurs principaux de la manifestation, mais tous les 40 autres associations, des gens qui ont dit c'est eux là, habillés tout en noir, c'est eux là les fautifs. Pour Bassine Non-Merci, on a une jeune militante qui s'appelle Noémie, qui a 28 ans et qui nous a écrit un très beau texte. Et son texte il finit comme ça. À l'heure où j'écris ce récit, après plusieurs mois de prise de recul, je suis soulagée de voir que le découragement et la terreur n'ont pas gagné. Ces derniers temps n'ont pas été faciles pour nos collectifs, mais plusieurs actions locales réussies nous ont remobilisés et redonné confiance en notre capacité d'agir ensemble. Alors que nous sommes la cible d'une répression judiciaire éprouvante, le convoi de l'eau en août 2023 et les nombreux rassemblements en solidarité aux inculpés nous ont réunis, soudés, renforcés. Les récentes décisions de justice annulant les projets de Bassine dans le Poitou et le rejet par le Conseil d'État du projet de dissolution des soulèvements de la terre nous prouvent que des victoires sont possibles, que nos arguments sont légitimes. Elles alimentent la joie. Je suis rassurée car j'ai le sentiment que nous avons retrouvé une force nécessaire pour assumer l'ampleur des tâches que nous attendent aux prochaines étapes. Je nous observe aujourd'hui nous remettre en action en direction d'une mobilisation grandiose l'été prochain. Nous prévoyons une semaine complète de camps et d'actions diverses. La machine à rêve collectif s'est remise en route. Ouf ! Après Sainte-Soline, il nous semble encore plus indispensable d'étirer le temps de ces événements pour profiter de la convergence des énergies militantes et pour avoir le confort de réfléchir collectivement à la diversité des gestes que nous voulons porter. Une semaine ne sera pas de trop. Nous voulons avoir le temps de comprendre comment s'incarne notre volonté de faire front commun pour la protection de l'eau, de la biodiversité, des terres, des libertés fondamentales. J'espère que nous réussirons à démultiplier le potentiel transformateur et émancipateur de ce rassemblement. Je sais que cela sera, une fois de plus, très intense et chronophage pour nous tous et toutes impliqués dans l'organisation. Nous avons conscience que nos rythmes de vie vont à nouveau en être bouleversés. Mais je me sens apaisée car pour moi, notre décision représente déjà une réussite. Celle de ne pas avoir cédé au fatalisme et à l'immobilisme que le gouvernement a tenté de nous imposer. Nobassaran.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette rencontre avec les sociologues Hélène Stevens et Gwendal Roblin du collectif du Loriot, deux des auteurices d'Avoir 20 ans à Sainte-Soline, publié aux éditions La Dispute. Et dans nos prochaines émissions, vous verrez que loin d'avoir décapité l'opposition aux méga-bassines et à leur monde de mort, le pouvoir a au contraire renforcé le mouvement, comme constaté au village de l'eau de juillet 2024, dont on va donc beaucoup vous parler dans les temps à venir. Vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres sur les méga-bassines sur notre site polémix et lavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio préférée, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut!